France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin, il est 8h30, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. À propos justement de la Fédération protestante, justement, cette année 2025 marque un double anniversaire, les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État et les 120 ans de la Fédération protestante de France. Deux événements qui se répondent et qui disent beaucoup de la place du religieux dans notre société. Aujourd'hui, la FPF, pour utiliser plus simplement le sigle, rassemble plus de 500 églises et œuvres issues d'histoire, de culture, de sensibilités diverses. Alors comment cette fédération vit-elle l'unité dans la diversité ? Comment lit-elle les évolutions récentes du protestantisme français avec la croissance notamment des évangéliques, l'émergence des églises dites mosaïques et puis tous les défis de la laïcité ? Pour en parler, je reçois ce matin Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, accompagné de l'une des deux vice-présidentes, Isabelle Veillé. À noter que Valérie Duval-Poujol, l'autre vice-présidente, ne pouvait être là ce matin, mais on pense évidemment à elle également. Bonjour Christian, bonjour Isabelle, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
La présentation, Christian Krieger, de la Fédération avec ses 500 églises, œuvres, ça correspond à ce que vous vivez en tant que président ?
Oui, effectivement, j'aimerais bien préciser que la Fédération est une organisation un peu clé de voûte du protestantisme français. Elle regroupe aujourd'hui 35 églises et donc pratiquement 450 œuvres. Elle constitue d'une certaine manière une double passerelle. Elle est à la fois une passerelle entre les églises et les œuvres, puisqu'elle réunit ce que la loi de 1905 a séparé, c'est-à-dire les associations 1905 et des associations 1901, culte et culture, spiritualité et action, si vous voulez. Et puis, en même temps, elle est une passerelle ecclésiale, puisqu'elle réunit des familles ecclésiales, luthéro-réformées d'un côté et évangéliques de l'autre. Et j'ai donc plaisir à souligner cette dimension à la fois deux fois passerelle et clé de voûte de la Fédération protestante de France.
Alors je disais qu'en 1905, c'est l'histoire qui commence pour la Fédération protestante de France au moment même où la République donc sépare Église et État, comme on le dit. Et finalement, vous le soulignez, loi 1905 et loi 1901, deux types d'associations, celles qui sont culturelles et les autres cultuelles. Comment ces deux histoires se croisent-elles ? Comment se répondent-elles ?
En fait, ce sont les travaux préparatoires à la loi de séparation des églises et de l'État qui ont servi de catalyseur pour le protestantisme. Ces travaux préparatoires ont fait prendre conscience aux responsables des églises protestantes d'alors, alors divisées d'ailleurs, de la nécessité d'un organe commun qui puisse les représenter, porter leurs paroles. Il fallait donc dépasser les divisions pour acquérir une meilleure visibilité, pour pouvoir mieux se faire entendre. Et donc, quelques pasteurs visionnaires ont promu l'idée, d'ailleurs même avant les travaux sur la loi de séparation, d'une fédération protestante, Auguste Décopé, Auguste Médétal, ou Onésime Prunier, et puis Wilfred Monod aussi, qui très tôt a évoqué cette idée, et un libriste, Édouard Gruner, ingénieur, qui en deviendra d'ailleurs le premier président. Ils ont promu non pas l'idée d'une union des églises, qui supposerait d'ailleurs un socle théologique commun, mais bien une organisation qui fédère par-delà la diversité des expressions de ce protestantisme français.
À vos yeux, la Fédération a-t-elle réussi à incarner ce rôle de présence, de témoignage dans la société française ?
Alors nous avons préparé à l'occasion donc de cet anniversaire des 120 ans, en collaboration et même avec la Société d'histoire du protestantisme français, une exposition pour illustrer cet incroyable rayonnement qu'a permis la création de la Fédération protestante de France, un rayonnement perceptible sur le plan international, notamment par un apport sur le plan œcuménique, au Conseil œcuménique des Églises, etc., mais aussi au niveau de la présence protestante au sein de la République, au sein d'une République laïque, avec l'animation des aumôneries, l'action durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la décolonisation, la présence sur les médias du service public, comme aujourd'hui sur Radio France ou dans le dialogue avec les pouvoirs publics, les autres religions. Voilà donc un rayonnement important, exposition visible à la Société d'histoire du protestantisme et disponible pour l'ensemble des églises membres de la Fédération et par-delà.
Ce matin, évidemment, en une vingtaine de minutes, nous n'allons pas refaire toute cette histoire. Autant aller voir cette exposition, sera plus simple. Mais par contre, j'avais envie que nous puissions aller davantage sur la réalité de cette fédération aujourd'hui. Et dans l'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là depuis déjà quelques années et qui continue chaque année. C'est le fameux verset biblique qui accompagne le travail de la fédération protestante. En 2025, il s'agissait des mots de l'épître aux Hébreux au chapitre 13. Le verset 1, et c'est celui que je vous propose d'entendre dans notre rendez-vous avec la parole, en le prolongeant pour l'occasion des versets 2 et 3, afin d'avoir un contexte un peu plus large. Ils nous sont lus par le comédien Thierry Casazian.
Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonnier avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance.
Isabelle Veillé, juste quelques mots, mais avec une résonance très très forte. Persévérer dans l'amour fraternel.
Un verset qui nous accompagne sur toute l'année. Un verset biblique qui puisse résonner au-delà du protestantisme. Un verset qui puisse interpeller chacun sur son propre rapport à la fraternité. Un verset d'actualité. Un verset qui nécessite effectivement un effort pour pratiquer la fraternité avec des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont parfois pas la même culture. Et c'est bien un effort de tous les jours, persévérer dans l'amour fraternel.
Est-ce que finalement, on ne serait pas là tout simplement dans l'une des missions essentielles de la Fédération protestante, surtout en ayant entendu auparavant ce que disait le président Krieger ?
C'est bien le résumé de la mission de la Fédération, d'être ensemble avec toutes nos différences.
Alors d'ailleurs, c'est un thème sur lequel on va revenir dans quelques instants, puisque c'est celui choisi pour le dîner des protestants qui aura lieu dans quelques jours. Mais concernant le visage du protestantisme français aujourd'hui, Christian Krieger, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur le sondage réalisé par l'IFOP, dont les résultats avaient été révélés en début d'année? Que nous apprend-il sur les évolutions du protestantisme français aujourd'hui?
Alors c'est un sondage qui nous apprend beaucoup de choses. Je vais peut-être mentionner deux idées là, ce matin. Premièrement, il nous apprend une stabilité du taux de protestants au sein de la société française. Et ça, c'est quand même remarquable dans un contexte en fait de sécularisation dans lequel vivent les sociétés occidentales depuis 3 siècles, que finalement le taux de protestants est stable depuis 15 ans au sein de la société française. Et comme la société a un peu grandi en nombre, le protestantisme lui aussi
a accompagné
ce mouvement. Mmh. Et le deuxième enseignement que je peux souligner ce matin, c'est que au-delà de cette stabilité, ce protestantisme connaît de fortes mutations internes, des équilibres internes de sa composition. Il y a à la fois une progression de personnes qui se comprennent d'abord comme évangéliques et pas comme protestantes. Il y a une progression des églises pentecôtistes, une progression numérique. Il y a le poids des églises culturelles qui devient de plus en plus significatif, des églises camerounaises, malgaches, etc. Et puis il y a l'émergence et l'affirmation d'un protestantisme culturel, c'est-à-dire 25% de protestants se disent protestants mais ne lisent plus la Bible et ne fréquentent le culte.
Comment percevez-vous justement au sein de la Fédération cette croissance de ces églises évangéliques, comme vous le disiez, qui parfois même se voient d'abord évangéliques avant d'être protestantes, même si elles le sont naturellement?
Alors c'est un phénomène complexe. Souvent on parle d'un... d'une poussée évangélique globale. En fait, c'est très complexe. Vous avez des églises qui ne connaissent pas du tout cette croissance, qui sont des églises historiques de sensibilité évangélique. Et puis, vous avez principalement donc le pentecôtisme qui a pratiquement doublé en nombre selon notre sondage. Et puis, je voudrais aussi souligner, quand on parle de croissance des évangéliques, il y a une forme de maturation du monde évangélique qui, aujourd'hui, veut prendre sa part dans le témoignage et la présence protestante au sein de la société française. Par exemple, nous le constatons au niveau des aumôneries, alors qu'il y a 10, 15, 20 ans, il y avait encore presque 70% d'aumôniers qui étaient luthéro-réformés. Aujourd'hui, les choses se sont presque inversées et les évangéliques prennent leur part à la présence protestante auprès des prisonniers, auprès des soldats, auprès des malades.
Alors, ce qui est peut-être paradoxal, c'est que certains médias renvoient quand même une image des évangéliques assez caricaturale. On peut le voir, on l'a vu récemment à la télévision, à la une de certains journaux. Et en même temps, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a une intégration beaucoup plus forte, justement, de ces évangéliques dans la vie de la Fédération protestante, notamment, et dans cette représentation aussi dans les institutions publiques.
Alors, il ne faut pas réduire les évangéliques aux idées qu'on pourrait s'en faire, ou que d'autres en s'en font, ou aux excès qu'on perçoit chez certains. Mmh. Et c'est un peu ce dont souffre ce monde évangélique. Au sein de la Fédération, on fait l'expérience d'un dialogue riche et fécond avec les églises évangéliques, avec les œuvres, avec les communautés, avec les différents mouvements, les associations et les églises, quelle que soit leur sensibilité.
L'autre point que vous avez souligné, ce sont ces églises que l'on qualifie aussi de mosaïques, à référence interculturelle. Nous en avons parlé ici même très récemment avec Pierre-Yves Kirchléger, et dans quelques jours, les 19 et 20 novembre, au Palais de la Femme, vous organisez un colloque sur ce thème, protestantisme et interculturalité, église mosaïque entre nation et mondialisation. Et il est d'ailleurs toujours possible de s'inscrire pour y assister en passant par le site protestantaupluriel.org. Ces églises, comment est-ce que la Fédération protestante les accompagne justement ?
Alors effectivement, premièrement, il y a ce constat que le protestantisme français connaît une diversification culturelle et que l'émergence d'églises issues des mobilités, souvent des églises isolées, parfois un peu autosuffisantes, sur notre territoire est une question pour nous, une question théologique et ecclésiologique. Quelle est notre responsabilité, quel est notre lien avec ces frères et sœurs qui, eux aussi, sont membres du corps du Christ? Et donc, on s'interroge sur quel lien tisser. Déjà, on se questionne avec ce colloque, comment comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre territoire au sein de ce protestantisme, et puis comment tisser des liens, comment les accueillir sans les intégrer en nivelant leur identité particulière, notamment culturelle, en respectant leur identité. Donc, c'est vraiment une mission, j'allais dire, presque ecclésiologique à assumer collectivement. Et la Fédération protestante de France, certes, est positionnée pour cette mission, mais en même temps, elle a besoin de ses églises membres qui, elles, sont sur le terrain, dans les départements, dans les villes, où finalement sont implantées ces églises issues de la diversité.
Dans cette diversité, justement, quel rôle joue la Fédération pour être un lieu à la fois de dialogue et de creuset commun ?
La Fédération, en fait, dans sa nature même, est un espace de dialogue. Et pour ouvrir cet espace à une autre dimension culturelle, elle est bien équipée, en fait, pour ce faire. Et elle peut favoriser cet élargissement du dialogue qui existe déjà entre nous au sein des membres de la Fédération.
Nous évoquions tout à l'heure très rapidement le dîner des protestants. Il aura lieu justement au cœur de ce colloque le 19 novembre prochain à partir de 18h30 dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. C'est la 5e édition du dîner des protestants avec pour thème cette année, protestants, unité et diversité au cœur de la République. Ce dîner est un rendez-vous annuel organisé par la Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide avec le soutien de la Fondation du protestantisme. Cette soirée a pour but de rassembler des personnes représentatives du protestantisme dans toute sa diversité pour une soirée philanthropique et en présence des autorités de l'État. La soirée permet également de lever des fonds de mécénat pour les œuvres sociales du protestantisme et principalement par le prix Charles Gide, attribué donc à des associations membres de la Fédération de l'entraide protestante. Christian Krieger, cet événement, qu'est-ce qu'il représente pour la Fédération ?
Alors c'est un moment important pour la Fédération. Je suis très reconnaissant à mon prédécesseur François Claveroli d'avoir lancé ce projet avec le concours du Cercle Charles Gide. parce que c'est un moment à la fois qui nous permet, vous l'avez dit, de rassembler la famille des protestants, les différentes expressions du protestantisme. Et il est important que cette famille puisse avoir un moment pour se reconnaître, se rencontrer, alors qu'elle est très éparse. C'est un moment à vivre. Ensuite, pour ce protestantisme qui est minoritaire dans la société française, on a parlé de 2%, et bien d'avoir un moment de visibilité grand public, c'est très précieux et c'est un moment vraiment à vivre pleinement. Et ensuite, nous sommes très, très soucieux de notre responsabilité au sein de la société, de notre action au sein de la société, et donc collecter des fonds, collecter 100 000 euros pour lancer un appel à projets innovants pour nos associations afin qu'elles puissent se lancer dans des expérimentations pour répondre aux besoins qu'elles côtoient sur le terrain. Voilà les trois objectifs qui nous animent. Alors, j'ai plaisir à constater que après 4 éditions, ce rendez-vous est institué dans l'agenda de la fédération et même dans un peu dans l'agenda aussi des médias. Parce que souvent, quand les journalistes me rencontrent un peu à quelques jours du dîner, ils me disent « Mais quel est votre message à la France ce soir ?» Donc, c'est bien qu'il y a une parole protestante qui est attendue ce soir, non seulement des protestants en interne, mais aussi de celles et ceux qui sont nos invités.
Et justement, la thématique cette année, qui concerne d'abord les protestants, a une résonance évidente avec une thématique plus générale dans la société française, unité et diversité. Est-ce que pour vous, c'est une tension à gérer, un trésor à cultiver ou peut-être les deux à la fois ?
Alors, c'est un trésor à cultiver. Voilà, la tension, de toute manière, nous la gérons. Et c'est peut-être un réflexe masculin. Peut-être qu'Isabelle dirait ça autrement. Voilà, c'est une tension à vivre. Oui, c'est clairement, je suis intimement convaincu que notre capacité à dialoguer, à nous écouter, à nous laisser transformer par la parole de l'autre est un message précieux pour notre société d'aujourd'hui. J'ai pu le dire à Mialet dans la prédication, c'est peut-être le plus fort témoignage que les protestants peuvent rendre à notre société si polarisée aujourd'hui. Ensuite, je crois que c'est important aussi de dire que ce sera le soir où nous pourrons un peu valoriser le modèle de l'action protestante au cœur de la cité, puisque vous avez à la fois un modèle catholique où on aurait tendance à inviter les fidèles à servir l'Église, et c'est l'Église qui agit. Et vous avez un modèle qui est plutôt cultivé par, disons voir, les héritiers des Lumières qui voudraient que on confine le religieux dans la sphère privée et c'est le citoyen qui agit. Eh bien, le protestantisme nourrit ses fidèles par la prédication et l'écoute de la parole, et ils agissent chacun dans leur lieu d'activité professionnelle ou d'engagement associatif.
Alors, je profite de cette discussion pour signaler aussi une table ronde qui va être organisée le lendemain du dîner, le 20 novembre, dans le cadre de la troisième nuit du dialogue interreligieux et laïque des Batignolles, à 20h au Temple protestant des Batignolles, sur le thème qui se présente comme une question, et mon prochain dans tout cela. Et tout ça, évidemment, se fait écho mutuellement. Restons sur la thématique de la laïcité, de ce rôle public aussi de la fédération. Quel regard vous portez, vous, alors à la fois en tant qu'homme, en tant que pasteur et en tant que président de la fédération protestante, sur l'évolution de la laïcité aujourd'hui ?
Alors je voudrais tout d'abord rappeler, et on ne le dira jamais assez, que la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, est une loi de liberté. Et c'est ce que souligne le premier article. Souvent, on cite le second. La République ne connaît, ni ne reconnaît, ni ne subventionne aucun culte. Mais le premier dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions donc de l'intérêt de l'ordre public. » C'est une loi de liberté à laquelle les protestants ont résolument adhéré dès l'origine. Alors, il y a certes eu des discussions, sinon nous ne serions pas protestants. Mais Ferdinand Buisson, par exemple, député, présidait la commission parlementaire qui a rédigé le projet de loi. Le problème actuel de cette loi, en fait, c'est qu'elle est instrumentalisée, qu'elle est utilisée à des fins politiques ou idéologiques. Aucun s'en servent pour viser ou s'attaquer à un culte particulier. Certains l'utilisent pour confiner les religieux dans la sphère privée, ou d'autres encore tentent d'effacer le fait religieux de l'espace public. Or, c'est l'État qui est laïque, pas la société ni l'espace public. La société accueille la pluralité de ses citoyens. Donc pour nous, c'est très très important en fait d'être attentif à cette intelligence de la laïcité comme une loi de liberté.
Et comment la fédération contribue-t-elle concrètement justement à défendre à la fois donc cette liberté religieuse et puis le vivre ensemble dans une société pluraliste ?
Alors elle exerce une veille, nous avons une commission droit et liberté religieuse qui est présidée par Catherine Berjal. Voilà, qui exerce une veille sur la compréhension du principe de la laïcité. Nous exerçons aussi une veille et nous intervenons régulièrement dans des colloques ou dans des conférences avec... D'ailleurs, c'est une action menée de concert avec les autres responsables de culte, nos amis juifs, musulmans, bouddhistes, catholiques et orthodoxes. Régulièrement, nous intervenons pour rappeler cette compréhension et cette nature même de la loi de 1905. Et ensuite, nous avons aussi tout un dispositif d'accompagnement de conseils pour que les églises membres de la fédération et peut-être toute association protestante d'ailleurs aussi puissent accéder à son droit et à son droit de liberté. Donc souvent notre commission instruit quand des scouts n'ont pas accès à une salle municipale pour leur fête de fin d'année ou pour leur spectacle de fin d'année, etc. Donc c'est vraiment une question de liberté qui se pose à chaque fois. Et la commission droit et liberté religieuse a sur notre site une foire aux questions pour résoudre ces problématiques quand nos membres ou des associations protestantes sont confrontées à une privation de leur liberté.
Isabelle Veillé, je le rappelle, vous êtes l'une des deux vice-présidentes de la Fédération protestante. Dans votre engagement plus personnel au sein de la Fédération, comment percevez-vous la richesse et les défis de la diversité ecclésiale que nous évoquions tout à l'heure ?
Moi, je le vis déjà au sein des commissions de la Fédération, puisque toutes les commissions thématiques de la Fédération sont constituées de membres des différentes églises ou œuvres. Et c'est là que se vit déjà cette diversité. C'est une richesse des regards croisés, mais c'est un défi parce que ça représente un vrai effort et un effort constant et un effort à renouveler et de la persévérance pour dépasser ces idées préconçues qu'on peut avoir sur d'autres et pour finalement réussir à construire ensemble quelque chose, à œuvrer ensemble. Mais c'est un défi permanent, surtout dans le contexte social et géopolitique du moment.
Si tous les deux, vous deviez résumer en un mot ce que la Fédération protestante représente aujourd'hui, lequel choisiriez-vous, Isabelle ?
Eh bien, pour moi, en résumé, la FPF, c'est voir le protestantisme plus large que ma communauté, mon église locale, mon union d'église ou mon activité d'engagement. Voilà.
Un élargissement du regard. Christian Krieger.
Alors pour ma part, effectivement, en ayant travaillé sur ces 120 ans de la Fédération protestante de France, je trouve que le protestantisme français a fait preuve d'une réelle capacité à dialoguer, à s'écouter, à se tenir ensemble. Et il a écrit un formidable témoignage au cœur de la cité. Et je trouve que ces vertus d'écoute, de dialogue et de se tenir ensemble sont pleines de promesses et qu'il nous appartient de les saisir.
Est-ce que vous pouvez, pour terminer, peut-être nous évoquer un chantier ou quelques axes très rapidement pour les années à venir ?
Alors il y a deux chantiers que je vois aujourd'hui. Il y en a un qui est en fait permanent, c'est comment accompagner cette diversification culturelle du protestantisme, comment conforter le rôle de la fédération au cœur de ce processus du protestantisme et dans le respect d'ailleurs du cadre posé par la République. Donc ça c'est un chantier qui nous appartient parce que dans certaines églises, notamment issues des migrations, eh ben on a parfois une culture exogène qui est encline parfois à des dérives qu'on pourrait qualifier de sectaires. Donc c'est un réel chantier à la fois cet accompagnement de cette diversification culturelle. Et puis un deuxième chantier qui sera important pour nous, nous avons devant nous des échéances électives que tout le monde en tête pour les municipales l'an prochain et puis en 2027 les présidentielles. Il s'agira d'être à la hauteur d'une contribution protestante, un message à notre société, peut-être un message qui fasse valoir qu'il y a une réelle promesse quand on sait s'écouter, quand on sait discerner le sens du bien commun pour les humains en accueillant la parole de l'autre.
Alors, où nous célébrons donc les 120 ans de la Fédération et de la loi de 1905, une évidence donc demeure, c'est dans l'unité vécue au cœur de la diversité que le protestantisme français trouve sa force et son avenir. Merci beaucoup Christian Krieger, merci Isabelle Veillé et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Avant de nous séparer, quelques livres à vous recommander ce matin. Chez Labor et Fides, Lettre à un jeune chercheur de Dieu de Martine Lecoq, que je recevrai dans quelques semaines. Un livre présenté comme une version moderne et salutaire des Lettres à un jeune poète de Rilke. Toujours chez Labor, le pasteur Philippe François, après son anthologie protestante de la poésie française, nous propose maintenant de la Bible au poème, avec 480 pages de poésie biblique, toutes tendances confessionnelles réunis du 16e au 21e siècle, avec un classement des poèmes dans l'ordre des livres bibliques de la création à l'Apocalypse. Et je ne manquerai pas non plus de recevoir Philippe François pour nous en parler. Aux éditions Ménonites du pasteur Robin Rive, l'Ancien Testament en 10 questions, un petit livre très pratique et accessible pour répondre, comme son titre l'indique, aux classiques interrogations qui se posent à la lecture du Premier Testament. Chez La Cause, dans la collection Biographie, Jean-Frédéric Oberlin, pédagogue par Alain de Vels, qui revient sur l'histoire de ce pasteur protestant alsacien, piétiste et apôtre du progrès social. Chez Farel, Ralentir de toute urgence de John Comer, présenté comme une sorte de feuille de route pour rester émotionnellement sain et spirituellement vivant dans le chaos du monde moderne. Puis enfin, je voulais évoquer très vite ce nouvel ouvrage de mon collègue et ami Bertrand Dical aux éditions de la Philharmonie de Paris, Musique née de l'esclavage, domaine français qui tisse le récit des cultures populaires issues des sociétés esclavagistes, un récit jusqu'alors très lacunaire face à une mémoire indicible. Alors justement, pour nous quitter, un spiritual, Rock My Soul, que l'on retrouve sur le nouvel album qui n'est autre que le 8e tome de la série Gospel et Negro Spirituals, produit par l'association protestante La Plantation, dans lequel on retrouve le groupe Gospel Train, le chœur Plantation Choir et la chorale. Les voix s'enchaînent, le tout sous l'impulsion de Pierre et Cécile Almeras. Berce mon âme dans les traces d'Abraham. Quand j'étais en deuil, j'ai pleuré, mais quand je suis descendu dans la vallée pour prier, mon âme était heureuse. Rock My Soul, Gospel Train.
Rock my soul in the bosom of fairy hymn, rock my soul in the bosom of fairy hymn, rock my soul in the bosom of fairy hymn, oh, rock my soul, rock my soul in the bosom of fairy hymn, rock my soul in the bosom of fairy hymn, rock my soul in the bosom of fairy hymn.
And Muslim, till I come feel. I'm Muslim, and Muslim, till I come feel. I'm Muslim, Muslim, till I come feel. Oh, rock my soul.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Éric Boisset à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestant-au-pluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision, à 10h ce matin sur France 2 dans Présence Protestante, vous retrouvez le magazine Écriture, présenté par Marion Muller-Collard, qui rencontre Anne Lemaître, autrice aquarelliste, dans son atelier de Dijon. Mais sur Culture, dans quelques instants, vos informations, suivies naturellement de Talmudique avec Marc-Alain Ouaknin. Et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
Listen to me, Lord. Listen to my prayer, my Father. I need you so much in my life. Take my hand, the Lord.
Bosom of Abraham. Bosom.
And guide me throughout my life.
Bosom.
In the footsteps of Abraham.
Bosom of Abraham. Bosom.